Parole d'assaut, une émission de Didier Blonce, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevons Côté Cour avec, pour invité, Marie Delaroque. Marie Delaroque, bonjour. C'est quoi cette association Côté Cour? On parle de cinéma, on parle de cours pour les enfants, c'est quoi?
Alors, le dispositif Côté Cour, c'est une association assez particulière en ce qu'elle est spécialisée dans le domaine de la santé mentale.
Rien à voir donc.
Rien à voir. C'est un dispositif que je pourrais décrire vraiment avec des valeurs presque militantes sur le droit des usagers de la santé mentale, c'est-à-dire qu'elle œuvre pour l'inclusion des personnes souffrantes psychiques comme n'importe quel citoyen qui puisse bénéficier des services de la cité et ne pas être hospitalisé ou institutionnalisé comme on le voit souvent.
C'est l'ouverture des hôpitaux.
C'est exactement ça. Et aussi des modèles de foyers de vie, de maisons d'accueil spécialisées où on oriente ces personnes-là sur un projet de vie sans limitation dans le temps et voilà, on rentre en foyer de vie, mais quand est-ce qu'on en sort, quand est-ce qu'on sort de masse, ça c'est plus difficile.
Dites-moi, il y a beaucoup d'idées reçues sur la maladie psychique.
Énormément, et c'est peut-être le premier travail qu'on doit mener, c'est de déstigmatiser et de casser un peu les idées reçues sur la pathologie psychique, notamment sur la dangerosité, sur tous les fantasmes qu'on a autour de la schizophrénie, de la paranoïa, voilà.
Ça fait toujours peur.
Ça fait peur, ça... Enfin, on a eu quand même des difficultés sur certains projets à s'insérer dans la ville, hein, au Havre même. Donc il faut toujours qu'on puisse communiquer, qu'on puisse démontrer que ces personnes ne sont pas malades 24 heures sur 24 et qu'elles ont des compétences et qu'elles ne sont pas dangereuses, en tout cas.
Ces lieux de vie, ça se passe comment ?
Eh ben, ça se passe le plus normalement possible, on va dire. C'est-à-dire que le projet de ce dispositif, c'est de développer des offres de logement comme n'importe quel autre citoyen, de pouvoir avoir un logement en sous-location ou en location. Et après, le travail surtout, c'est de mettre l'accompagnement nécessaire pour que la personne puisse se maintenir sans difficulté en milieu ordinaire.
Il faut donc que votre association soit propriétaire de logements, ou vous louez des logements, ou vous avez vraiment des militants, des bonnes âmes, des gens qui disent « ben moi, je m'occupe de gens défavorisés ou en difficulté et je travaille avec justement votre association Côté Cour ».
C'est ça. Enfin, alors, on n'est pas propriétaire. On loue tous les appartements, on a 125 logements. Offres de logements qui vont du logement individuel au logement collectif.
Dans toute la région havraise.
Sur le Havre principalement, c'est les demandes les plus importantes. Et on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux du Havre, qui sont... Il y a eu un gros travail de partenariat sur les 10 dernières années. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une relation de confiance et ils nous louent facilement des logements pour le public qu'on accompagne. Et quelques bailleurs privés, dont un, qui a justement cette fibre et qui nous soutient énormément dans notre travail et nous met à disposition des superbes locaux pour ce public.
Ça reste peu.
Un bailleur privé, oui, ça reste peu. Mais le partenariat fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en difficulté quand on cherche un logement pour une personne qui nous sollicite.
Quelle est la réaction des habitants, des gens? La cohabitation, ça se passe comment? Quand on annonce un schizophrène qui va habiter là, quelle est la réaction des voisins, la première étape?
C'est toute la complexité, c'est de savoir si on annonce ou si on n'annonce pas. Il y a le droit aussi au respect de la vie privée et de ne pas annoncer. Et en même temps, si on n'annonce pas, il y a des a priori et des jugements sur le voisin. Donc on fait un peu du cas par cas. Quand ça se passe bien, on n'annonce pas. Et c'est peut-être plusieurs mois après que des voisins demandent « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? On voit bien qu'il y a du personnel qui vient. » Et quand on explique, justement, c'est un peu la stupeur de dire « Mais il y a 10 malades mentaux qui vivent dans cette maison, on n'entend rien, il n'y a pas de bruit. » Mais ça n'a pas toujours été aussi facile. Notamment sur un des quartiers près de Harfleur, on a pu avoir des maisons communautaires qui ont été caillassées par des habitants qui avaient peur parce qu'on s'implantait à côté d'une école maternelle et que c'était des malades mentaux qui allaient agresser leurs enfants, voire pire. Donc il faut communiquer, il faut ouvrir les portes, il faut surtout pas rester cloisonné. Et en invitant les habitants, on arrive à casser un peu... C'est comme ça qu'on casse les représentations. Et aujourd'hui, on n'a plus de soucis. Et ça se passe plutôt bien. La mixité se passe bien, en tout cas.
Les personnes concernées sont plutôt des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes ?
De tout. En fait, nous, on commence à accompagner les personnes à partir de 18 ans. On peut travailler certains projets en amont des 18 ans pour faciliter la passerelle entre le secteur de l'enfance et le secteur adulte. Après, on n'a pas de limite d'âge. Tant que la personne peut se maintenir en milieu ordinaire, c'est de, justement, même pour les personnes vieillissantes, c'est de démontrer que ce public, même s'il y a des difficultés par rapport aux pathologies, ne sont pas obligatoirement orientés en EHPAD à 60 ans. On peut, avec des moyens d'accompagnement, des auxiliaires de vie, un mode de vie en collectif, permettre à ces personnes de rester en milieu ordinaire jusqu'à sans limite forcément définie.
Ces gens en difficulté, ce sont des gens également qui travaillent ou ils ne sont pas capables de travailler ?
Alors, nous, on est vraiment, vraiment bien spécialisés en santé mentale, ce qui fait qu'on a des situations quand même assez complexes au niveau du handicap. Les personnes les plus stabilisées vont peut-être trouver des associations plus généralistes et peuvent travailler. Nous, le public qu'on accompagne, on n'a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont pour l'instant en condition de travail. Alors, c'est pas pour autant qu'on travaille pas à l'insertion professionnelle. On essaye de remettre un pied à l'étrier, de pouvoir se lever le matin, de se présenter convenablement, de pas avoir le t-shirt taché, de pouvoir s'exprimer de façon claire. Maintenant, une vraie insertion professionnelle, ça reste encore compliqué pour le public qu'on accompagne.
Est-ce que ce sont des personnes isolées, abandonnées, ou il y a les familles qui sont autour ?
Je vais vous dire que la plus grosse partie, ce sont des gens vraiment isolés, qui sont en rupture familiale, en rupture de lien social, qui n'ont plus d'activité. Il faut retravailler tous ces items-là autour de la personne. Mais il y a quand même encore des personnes qui sont soutenues par les familles, qui sont elles-mêmes très démunies, qui sont peu informées, peu accompagnées par les soignants en général. Et notre travail, c'est d'écouter les familles, de les soutenir aussi dans l'accompagnement qu'elles-mêmes ont avec leurs proches. Et voilà. Donc mais majoritairement, ce sont des personnes isolées, quand même.
Est-ce que vous avez des problèmes de rupture de soins ?
Énormément.
Énormément. C'est quelque chose qui doit
revenir. Alors là, vous me branchez sur le lien avec l'hôpital psychiatrique. on se rapproche de l'hôpital du Havre parce que la plus grosse problématique, c'est la rupture de traitement. Donc il faut qu'on ait une réactivité dans le partenariat qu'on mène avec l'institution hospitalière. Quand nous, on voit un problème de rupture de traitement, il faut que l'hôpital puisse vite prendre le relais pour éviter des décompensations trop importantes. Et là, on repartirait sur des hospitalisations longues. L'idée, c'est d'être très réactif, que s'il y a décompensation ou rupture de traitement, l'un n'est pas forcément lié à l'autre, mais que l'hôpital puisse vite prendre le relais pour des petites hospitalisations courtes et que la personne puisse retourner dans son logement rapidement. Mais effectivement, quand on va mieux, qu'on est bien dans son logement, qu'on se sent bien, comme n'importe quelle autre personne, on va arrêter son traitement parce que tout va bien. Or là, ça fait l'effet inverse.
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. C'est comme des parfums qu'on respire. Plus d'amour, plus d'ordinaire.
c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire les mots qu'on reçoit. C'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire.
Facile à faire.
Didier Blons donne la parole aux associations.
Qui contacte côté cours? C'est l'hôpital, des médecins ou les familles?
Alors, je vais vous dire vraiment
Marie Delarocque.
La plus grosse orientation vient de l'hôpital, on va dire à 85%. Les associations de famille aussi, les mandataires judiciaires qui se retrouvent parfois dans des situations complexes avec les majeurs qu'ils accompagnent. Mais les personnes elles-mêmes peuvent nous solliciter. Et c'est mieux quand c'est comme ça. Donc, ça arrive que des personnes qui sont hospitalisées nous adressent une lettre en disant voilà. Je vais bientôt sortir d'hospitalisation, j'aimerais bénéficier d'un logement protégé, temporairement ou de façon durable. Et on monte un projet le plus personnalisé possible avec la personne et son entourage.
Parce que du personnel soignant a parlé de votre association, de votre action. Parce que comment ils sont informés? Le bouche à oreille?
Le bouche à oreille. Entre patients, ça va assez vite. J'ai eu l'exemple, on a ouvert une maison il y a peu de temps pour des très jeunes, les 18-25, qui sortent du milieu de l'enfance. De l'ASE, on a ouvert une maison vraiment spécifique pour ces jeunes-là. Et ça allait très vite, en fait, quand ils se croisaient en hospitalisation. Ils disaient, bah tiens, côté cours, ils ouvrent une maison spécifique pour nous. Et donc, il y a des soignants, il y a le bouche à oreille entre patients. Et puis, il y a toute la communication qu'on essaye de faire aussi pour être un peu plus visible.
Dans les associations, il y a des bénévoles et puis il y a aussi des grosses structures où il faut des professionnels, des gens qui ont les financements.
Sujet sensible.
Comme pour toute association, voilà. Rassurez-vous.
Alors d'autant plus sensible pour nous, c'est que l'inclusion des personnes en situation de handicap n'était pas un modèle qui était aussi porté qu'il l'est en ce moment. Donc pendant des années, on a essayé de trouver des financements, mais on ne rentrait pas dans les cases, dans les fléchages de financement. Et c'était compliqué, c'était soit des financements d'établissements médico-sociaux, ou financements de services d'accompagnement. Et nous, on était justement à la croisée de tous ces dispositifs, très inclusifs, et ça a été compliqué. Depuis peu, le gouvernement a plébiscité le virage inclusif, donc ce que nous, on porte depuis des années, alors, le tout inclusif, je fais un aparté, je pense pas que ce soit possible. Il y aura des personnes qui ont un handicap lourd et qui auront besoin de personnel 24 heures sur 24 et d'étayage. Mais à peu près, je pense, 30% des personnes en institution, en hospitalisation, pardon, pourraient être dirigées vers le milieu ordinaire. Donc on commence à voir des financements se créer pour la coordination de ces services, pour nous aider à continuer à développer, mais ça fait peut-être 2 ans. Qu'on arrive à avoir des financements qui nous correspondent. Donc on lâche rien, on fait des appels à projets, on démontre que le travail, ça a un réel impact en termes de chiffres. On a fait une étude, on a à peu près 7% d'échecs sur notre dispositif. Sur 320 personnes accompagnées avec des troubles psychiques à peine stabilisés, c'est quand même un chiffre important.
320 personnes, vous avez parlé de 120 appartements à peu près, ça veut dire qu'il y a de la cohabitation?
Alors, non, on a vraiment 125 offres de logement, même en collectif, on les identifie bien, l'offre de logement individuel. Par contre, on a 2 services d'accompagnement qui contribuent aussi au maintien en milieu ordinaire, mais pas forcément dans nos logements. C'est-à-dire qu'on a un service médico-social, d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap, spécialisé santé mentale, et il accompagne autant de personnes qui ont un logement côté cour que de personnes qui sont dans leur propre logement, qu'elles ont capté elles-mêmes, et on va participer à leur maintien dans leur logement. Et on a un service d'aide à domicile spécialisé en santé mentale, avec des auxiliaires de vie qu'on forme à la question de la pathologie psychique, pour qu'elles puissent avoir un accompagnement vraiment adapté, et elles accompagnent à peu près 110 personnes dans leur logement aussi.
L'association Côté Cour existe depuis combien de temps? C'est né comment?
Alors, l'association a été créée en 1999, a fêté ses 20 ans cette année. Et ça a été créé sur une demande de l'hôpital psychiatrique du Havre, qui justement avait identifié que des personnes étaient hospitalisées pour des raisons... Enfin, on parle d'hospitalisation inadéquate, faute de réponse du médico-social pour pouvoir les accompagner selon leurs besoins dans le milieu ordinaire. Et ça s'est d'abord développé sur du logement inclusif. C'est-à-dire qu'il y avait des logements captés, il y avait des équipes qui tournaient pour aider ces personnes dans leur logement. Et ça, c'était les prémices de l'association Côté Cour. Et à partir de là, une fois qu'on avait cette offre de logement, il fallait penser à l'accompagnement, puisqu'on ne peut pas penser juste un toit sur la tête, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir aider la personne au quotidien, au moins temporairement, pour qu'elle puisse prendre ses marques. Donc après, on a récupéré la gestion du SAMSA, du service médico-social, et en 2013, on a créé un service d'aide à domicile spécialisé en santé mentale, parce qu'on avait besoin de réponses vraiment adaptées. Et on n'avait pas réussi à trouver ces réponses dans l'existant.
Nous recevons beaucoup d'associations à ce micro et je suis toujours étonné de voir comment les grosses institutions se font relayer par des petites associations et pourquoi ces institutions n'arrivent pas à répondre aux besoins. Il faut que ce soit les associations qui se dépouillent, souvent avec des petits moyens, souvent au départ avec des bénévoles, avant de réussir à s'organiser, à combler un manque.
Alors, sans me faire d'ennemis. non, je pense que vraiment, la force de ces petits dispositifs, c'est d'être au plus près des besoins des personnes. Quand on est sur des grosses institutions, on a des offres qui sont un peu plaquées. Voilà, nous, on a tel projet à vous proposer. Et il y a peu de flexibilité sur les offres, en fait. C'est des financements vraiment, comme je disais, très fléchés. La force des petits dispositifs comme les nôtres, c'est de faire du bricolage social, c'est-à-dire qu'on part des besoins de la personne, on se dit voilà, ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut essayer de bricoler pour lui offrir ce qu'elle a besoin. Par exemple, on avait des financements pour des résidences accueil spécialisées qui sont, c'est du logement inclusif, mais il y a un cahier des charges bien spécifique. C'est des logements individuels, de type studio, il faut un adossement d'un service d'accompagnement. Et on s'est rendu compte que les personnes n'avaient pas forcément l'autonomie pour aller dans un studio, même avec un espace collectif en bas. Il faut savoir se faire à manger, il faut savoir entretenir son logement, etc. Donc on a repensé des formes d'habitat partagé qui sont plus souples, dans le sens où les personnes ont des aides individuelles. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais ça s'appelle des prestations de compensation du handicap qui sont adressées à la personne. Et en les mutualisant, on a pu créer des petites maisons dans le centre-ville du Havre, où on capte des maisons de 4, 5, 6 chambres, et les personnes vivent ensemble parce qu'elles ne veulent pas être isolées. Et pour autant, elles n'ont pas forcément l'autonomie pour vivre dans des studios, etc., mais de partager la vie collective avec une professionnelle qui vient les aider 7 heures par jour, ça leur permet de vivre en milieu ordinaire, de ne pas être seules, de ne pas être en difficulté parce qu'elles n'ont pas forcément l'autonomie nécessaire, mais on travaille sur la mutualisation des compétences, on identifie qui sait faire quoi dans la maison, et finalement, ils ont peu besoin des professionnels.
Vous êtes toujours sur Parole d'Assaut.
Tous les enfants dans leurs draps dorment d'un sommeil innocent, innocent enfant. La nuit est un doux refuge de rêve. Des fils de soie reposent sur les cils de l'enfant innocent. Enfant, que le blanc linge te protège. Toi aussi, j'aurais bien été ton grand-grand frère. Je t'aurais gardé ton lit. Je t'aurais monté de longues histoires. Sans plus si tu te serais endormi, Joanie, Joanie, car tous les enfants dans leurs draps dorment d'un sommeil innocent. Enfant, la nuit est un doux refuge de rêves. Des fils de soie reposent sur les cils de l'enfant innocent. Enfant, que le blanc linge te protège, toi aussi, Joanie.
dors, 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 Joanie dors. Petits et grands, les enfants sont dorés d'argent, faufilés de fil blanc. Grands et petits, les enfants aiment la vanille. Dans le train de spéculose, dans le train de massepain, dans le train de l'enfant, sur le dernier wagon, un coffre fort avec la gomme des parents dedans. Dans, 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 dans. Le ciel est plein de nuages et de paysages. Nuages coton, bleu, blanc, blanc au-dessus du village. Le vent descend.
Combien de professionnels ?
Pour 320 personnes, on a une soixantaine de professionnels.
Marie de la Roque.
Tous services confondus.
Et on vous contacte où, comment vous êtes disponible 24 heures sur 24
Alors non, et la force du dispositif, c'est qu'on n'a pas d'astreinte et qu'on travaille ni le soir ni le week-end. C'est-à-dire que les gens qu'on accompagne sont autonomes le soir et le week-end, et on n'a pas de service d'astreinte. Ils peuvent nous contacter si vraiment il y a une urgence, mais le travail, c'est vraiment qu'ils puissent être autonomes des professionnels. Et même si ça doit passer par un groupe sous forme collective, Mais l'organisation fait qu'ils arrivent à se maintenir sans nous. Alors on nous trouve au 15 passage Arcade Nourri, juste en dessous de la maison de l'adolescent, en centre-ville. On nous contacte sur les heures de bureau de 8h30 à 16h30. Et toute personne peut nous solliciter en passant, en nous appelant. Et il y aura toujours un rendez-vous de données pour écouter la demande de la personne ou de la famille ou du professionnel.
Et puis, je savais tout de même ce qu'était à peu près côté cours, parce que j'étais allé sur Internet, il y a quand même un certain nombre de renseignements sur votre association. Côté cours, c'est Avray.
Alors, le montage côté cours est Avray. On a des homologues sur Rouen, l'association La Clé, qui font à peu près la même chose que nous. Maintenant, des associations vraiment très spécialisées, santé mentale, 100% inclusive. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on a, par exemple, le service d'aide à domicile spécialisé en santé mentale. Il y en a très peu sur le territoire national. C'est des services hyper spécialisés qui répondent vraiment à des besoins bien ciblés. Par contre, on aimerait que ce type de dispositif puisse se déployer partout en France. Donc on est aussi très actif dans le partage de nos montages, d'aller faire de la formation sur d'autres territoires, d'accueillir des associations pour voir le modèle côté cours et pouvoir le développer, parce que je pense que ça répond vraiment à des besoins pour ce public-là.
Il y a un côté positif par rapport aux grandes institutions qui ne peuvent pas répondre à ces demandes particulières. Vous êtes sur le terrain, mais alors ces associations, si elles existent au Havre, qu'elles fonctionnent au Havre et qu'elles sont utiles au Havre, on peut imaginer qu'elles seraient utiles aussi dans d'autres grandes villes, là où cette association n'existe pas. Pourquoi est-ce que les institutions ne poussent pas à la création de telles associations, ne vous aident pas ou ne les aident pas en vous contactant et en créant les partenariats?
Alors ça, c'était valable il y a encore 2 ans. Il y a vraiment moi, à mon niveau, je sens que les choses bougent. C'est-à-dire qu'avec le virage inclusif du gouvernement, il y a quand même des préconisations fortes de données, notamment pour les grosses associations qui portent des institutions. Maintenant, le taux d'accompagnement en milieu ordinaire passe de 30% à 50%. Donc ça pousse les associations qui développaient plutôt des foyers de vie ou des maisons d'accueil spécialisées à repenser leur offre. Et on est de plus en plus, nous, sollicités pour soutenir des grosses associations à transformer leur offre médico-sociale vers de l'accompagnement en milieu ordinaire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif.
Vous-même, êtes-vous soignante ?
Pas du tout. Alors, la particularité du dispositif côté cours, c'est qu'on doit avoir 3 soignants sur 60 professionnels. Ça a été un choix des fondateurs de l'association, justement, de sortir du milieu de la psychiatrie et de développer des réponses vraiment médico-sociales et sociales. Et d'avoir un lien fort avec la psychiatrie parce que le soin est indispensable dans le projet de vie de la personne. Mais ça ne doit pas être le seul accompagnement. Et cette force, c'est que l'ensemble de nos professionnels viennent de différents champs et on ne recrute pas sur diplôme, mais sur la personnalité, sur l'empathie, sur l'envie de travailler avec des personnes souffrant psychiques, parce qu'il ne faut pas avoir d'a priori, il ne faut pas avoir de peur. Et ça demande aussi de la stimulation, c'est-à-dire qu'on doit être toujours la locomotive qui vont les aider à continuer à maintenir leur dynamique d'insertion. Et finalement, non, on a peu de soignants. Et moi, j'ai un parcours de sociologue, donc rien à voir avec ce milieu. Mais pour autant, ça fonctionne bien.
Justement, à entendre votre discours, on entend de l'expérience, mais il y a aussi des formations. Vous n'avez pas les mêmes formations, donc vous venez d'horizons divers, lesquels?
Alors, sur vous parlez de l'ensemble du dispositif?
Oui.
Alors, on a 3 infirmiers psy, quand même, pour soutenir un peu le regard clinique, on en a besoin. On a des éducateurs spécialisés, on a beaucoup d'auxiliaires de vie. C'est un métier qui est énormément demandé sur notre dispositif, alors pour le service d'aide à domicile, mais aussi pour le service logement. C'est-à-dire que les professionnels qui vont coordonner la vie collective sur les maisons communautaires sont de formation auxiliaire de vie. À côté de ça, on a des animateurs sociaux. On a un factotum qui a travaillé dans une entreprise de. Pour pas donner le nom, je voudrais pas.
On peut
De
citer le nom.
remise chez Eudier, par
Oui,
exemple, il vient de
voilà,
chez
voilà,
Eudier.
voilà.
Mais du coup, il a un regard à la fois, une bienveillance au niveau social, mais il a cette technicité pour aller aider dans les logements, faire des petites réparations. Et en fait, on a des serveuses aussi, on a des coiffeuses qui. En fait, on va chercher ce que le professionnel pourra amener en plus de sa fiche de poste. Donc, par exemple, des esthéticiennes qui vont aider des femmes à reprendre goût à se maquiller, à se coiffer, etc. Donc, on va chercher tout ce qu'on peut trouver dans le parcours du professionnel qui va pouvoir servir et aider à l'accompagnement. Donc, voilà en gros ce que je peux vous dire sur le profil.
Marie Delaroque, je vous remercie. C'était le 61e numéro de Parole d'Asso, une émission de Didier Blonce, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevions Côté Cours. On rappelle l'adresse.
15 passage Arcane Nourrit, 76 600, Le Havre.
Avec pour invité Marie Delaroque, je vous remercie. Au revoir à tous.
Merci à vous.